Bonjour, nous sommes les éco-délégués de 4e et 3e du collège Marcel Aymard. Éco-délégués, ça veut dire que l'on fait partie d'un club en rapport avec l'environnement. On monte des projets, on fait des sorties et on partage ce que l'on sait et ce que l'on a appris aux autres. L'année dernière, nous avons participé au projet 10 mois 10 mots sur le thème de la planète. Il s'agissait d'écrire une nouvelle incluant 10 mots imposés, canopée, glanée, empreinte, conséquentiant, butinée, scolaire, vivant, palmuré, biome et débroussé. L'une de ces nouvelles a gagné le concours organisé en interne. Nous vous présentons aujourd'hui dans cette émission une lecture de ces nouvelles dans le cadre de l'initiative Novembre Vert.
Novembre Vert, un mois pour se réinventer. Au même titre que la sensibilisation au dépistage du cancer du sein permet de colorer toute une ville en rose, nous sommes convaincus que face à l'urgence climatique et environnementale, il est nécessaire que les questions de réappropriation de modes de vie durables occupent l'espace public durant tout un mois. 15 collectifs et associations du Sud Aveyron lancent Novembre Vert, Vert V-E-R-S, un mois dédié à la découverte et à la mise en œuvre de pratiques simples et accessibles à tous pour vivre mieux tout en préservant nos ressources et la planète. Pendant un mois, nous sommes tous invités à faire évoluer nos habitudes. Il s'agira de promouvoir des comportements bénéfiques à tous les niveaux, montrer les enjeux et les limites de nos modes de vie et construire des alternatives. Réduire notre impact environnemental et limiter le changement climatique. Amorcer un mode de vie résilient pour se préparer aux chocs à venir. Améliorer notre qualité de vie et renforcer le lien social. Et insuffler une nouvelle manière de voir le monde. C'est sur ce dernier point que les élèves du collège ont travaillé. Certaines classes ont participé à un concours d'affiches de Novembre Vert. D'ailleurs, bravo à Lola et Sajida de 3e 5 qui ont gagné. Et les éco-délégués viennent aujourd'hui vous lire des nouvelles écrites l'année dernière. Des nouvelles inspirantes, pleines d'espoir et qui démontrent l'attachement de nos jeunes à la nature. Bonne écoute.
Bonjour, je suis Maëlle. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle. Elle s'appelle « 5 amis contre une ville ». Chapitre 1, le village du Grand Baobab. Dans deux siècles, en 2225. Un matin, dans le village du Grand Baobab, Yann observait les rayons du soleil qui perçaient à travers le feuillage du grand arbre. Le jour venait d'apparaître et dans une heure, les aînés du hameau partiraient échanger leurs produits et trouvailles dans les villages alentours pour ne revenir que le lendemain. Le village était regroupé autour de l'arbre dont il portait le nom et se trouvait isolé au milieu de la brousse. L'autre bourgade la plus proche étant la cité du lac à de nombreuses heures du marche. Yann était encore trop jeune pour accompagner les adultes et il occupait donc ses journées à explorer la savane avec ses amis pour glaner de la nourriture ou ramener de l'eau de source. Le village possédait un réservoir d'eau de pluie non potable que l'on utilisait pour arroser les cultures et faire boire les bêtes. L'eau de source servait uniquement aux hommes. Yann se leva de sa couchette et faillit se cogner contre le plafond en terre trop bas. Il alla dans la cuisine et attrapa une galette de mil et quelques figues qu'il dévora avec appétit. Le cri d'un coq maigrelet retentit soudain et le village commença à se réveiller. Yann sortit de sa maison en terre à l'ombre de l'arbre majestueux et se dirigea vers la placette du hameau, à côté de laquelle se dressait la maison du doyen. C'était lui qui apprenait l'histoire aux enfants, les instruisait et, le soir, il leur racontait des récits du passé avant qu'ils ne s'en aillent. C'est grâce à ce dernier qu'il avait eu vent de la catastrophe de 2067 que les hommes avaient déclenchée par la pollution et la destruction de la nature. Elle avait entraîné une très forte hausse de la température moyenne mondiale de plus 5 degrés et provoqué de nombreux phénomènes naturels dangereux. Incendies, sécheresses, cyclones, inondations, épidémies mortelles. C'était pour cela que 150 ans plus tard, l'Europe était couverte du biome savane et que l'humanité était réduite au tiers des effectifs du XXIe siècle. Yann poursuivit sa route jusqu'au point de rendez-vous de sa bande d'amis sur une branche basse du baobab centenaire. Debout sur celle-ci, Lias, son meilleur ami, l'attendait. « Yann, t'as mis longtemps à venir. Dépêche-toi, » lui cria-t-il. « Y a que toi ?» demanda ce dernier. « Ouais, les autres ne sont pas encore arrivés. » Il s'installa sur la branche massive, puis attendit le reste de ses amis pendant quelques minutes. Chapitre 2. La source. Une fois qu'ils furent tous arrivés, ils partirent ensemble sur le tractomoteur, un engin construit par les mécanos du village à partir de différentes pièces et débris récupérés dans les ruines qui parsemaient la brousse. Il fonctionnait grâce à l'énergie fournie par des panneaux solaires, eux aussi rafistolés, installés dans les branches du baobab. Lias et Aline montèrent sur un buffle qu'ils prenaient tout le temps pour pouvoir tirer le véhicule quand il tombait en panne, c'est-à-dire assez souvent. Ils traversèrent la brousse en dérangeant quelques troupeaux d'antilopes, paissant paisiblement jusqu'à arriver à une petite colline couverte de nombreux arbres formant une canopée assez dense. Heureusement, un passage dans la végétation avait été pratiqué et permettait d'accéder à un petit bassin recueillant l'eau de la petite source, où coulait un mince filet d'eau. Arrivée là-haut, Elona s'empressa de remplir la jarre d'eau claire pouvant contenir jusqu'à 50 litres, puis demanda de l'aide à ses amis pour l'amener jusqu'au véhicule. Pendant qu'ils étaient en train de porter la jarre, un grand fracas retentit et un arbre non loin s'effondra bruyamment. Alors qu'ils s'approchèrent de la source du bruit, un spectacle horrible apparut sous leurs yeux. Chapitre 3, le plan. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'exclama Yann en voyant l'ampleur du désastre. En effet, une cinquantaine de bûcherons étaient en train de raser une grosse partie du petit bois qui entourait la source d'eau, l'un des rares endroits où les arbres étaient nombreux, sans doute grâce à la proximité d'une nappe d'eau souterraine. Un peu plus loin, on voyait aussi beaucoup de gens en train de débrousser, pour obtenir des terres cultivables ou y planter une palmeraie. D'où viennent tous ces gens ? Se demanda Ariel, la seconde amie de Yann. J'ai l'impression qu'ils viennent de la cité du lac, répondit Yann. Regardez, on voit une surface scintillante là-bas. Il faut faire quelque chose, il faut les arrêter. On ne peut pas les laisser continuer, s'énerva Elona. S'ils poursuivent leur travail, bientôt la source et tous les arbres non loin disparaîtront. Ne prenons pas de décisions irréfléchies, ils sont 20 fois plus nombreux que nous et ils sont munis de haches. De toute façon, ce n'est pas seul qu'on arrivera à les arrêter, la tempéra Aline. Tu as raison, il faut retourner au village le plus vite possible et prévenir les adultes, décida Yann. Ils se dépêchèrent de préparer le tractomoteur et le buffle, puis poussèrent la machine à sa vitesse maximale. Tu es fou, s'exclama Ariel. Le moteur ne va pas tenir longtemps à cette vitesse. En attendant, il faut arriver le plus rapidement que l'on peut au village, alors peu importe si le véhicule lâche en cours de route. Alors qu'ils étaient en vue du village, le tractomoteur émit soudain un bruit étrange et les roues se bloquèrent. Il dérapa et alla faire un tonneau dans un buisson épineux. Aïe ! Hurla Aline qui était tombée la tête la première dans le buisson. Aidez-moi, je suis bloquée sous la jarre qui m'est tombée dessus. Au moins, toute l'eau est encore à l'intérieur et elle ne s'est pas brisée, rigola Lias. Arrête ! Ce n'est pas le moment de s'énerver, il faut vite transvaser la jarre sur le dos du buffle, le calma Yann avant que ça ne dégénère. Et on va abandonner le tractomoteur ici ? S'étonna Elona. C'est pas grave, on enverra quelqu'un d'autre le chercher, répondit Ariel. Puis ils marchèrent d'un pas vif vers le village, suivant le buffle mené par Yann. Arrivés à celui-ci, ils se séparèrent et Aline et Ariel allèrent prévenir les adultes tandis que Yann et les autres décideraient d'un plan pour arrêter les bûcherons. À mon avis, ça ne servira à rien d'essayer de convaincre directement les bûcherons et des broussailleurs. Il vaut mieux essayer de convaincre directement le chef de la ville d'arrêter et pouvoir connaître ses raisons, réfléchit Yann. Tout seul, mais la cité du lac est à une demi-journée de marche, protesta Elona. Justement, il nous suffit de partir cette nuit et comme ça, nous arriverons demain à l'aube, exposa Lias. Ainsi, les adultes ne nous verront pas notre départ et tout se déroulera parfaitement. Cela fut décidé et il fut convenu qu'ils partiraient tous à minuit. Ensuite, Yann alla à sa maison pour préparer ses affaires durant l'après-midi, et il se coucha tôt pour profiter de quelques heures de sommeil. Chapitre 4. La cité du lac. Il ne se réveilla qu'une dizaine de minutes avant minuit, prit ses affaires rapidement, puis sortit de la maison à pas de loup. Dans la fraîcheur de la nuit, on pouvait entendre de nombreux êtres vivants se réveiller. Quelques prédateurs hurlaient, et des chauves-souris passaient en trombe au-dessus de lui pour aller butiner des fleurs de baobab. Yann se faufila discrètement derrière la sentinelle et rejoignit ses amis à leur point de rendez-vous. « Ah, enfin, tu es là !» chuchota Aline. On commençait à s'inquiéter. « On ne risque pas de rencontrer des animaux féroces dans la brousse au milieu de la nuit ?» s'inquiéta Elona. « J'ai pris le nécessaire, » souffla Lias. « J'ai mon couteau, quelques bâtons et une fronde au cas où. »« Je ne sais pas si ça suffira, mais on n'a plus le choix maintenant, » répondit Yann. Ils partirent donc et, heureusement, ne croisèrent pas de grands prédateurs, à part un chacal isolé qui fut vite chassé à coups de pierre et de bâtons. Ils arrivèrent à leur destination au lever du soleil et contemplèrent le spectacle qui s'offrait à eux. La cité du lac était beaucoup plus grande que leur village et comptait plusieurs centaines d'habitants. Elle se situait au bord d'un grand lac et de nombreuses embarcations de pêche s'alignaient sur son bord. Elle était entourée des mêmes ruines qui parsemaient la brousse, mais si resserrée qu'on avait l'impression qu'une ancienne ville s'était dressée à cet endroit. Une palissade l'entourait et une maison deux fois plus haute que les autres se dressait au milieu de la ville, sans doute la maison du chef. Wow! « Je ne pensais pas que c'était aussi grand quand même. Comment on va trouver notre chemin là-dedans ?» se demanda Elona. Ils s'approchèrent d'une des trois portes quand ils remarquèrent la présence de deux gardes à chaque porte, qui commandaient le levier mécanique qui permettait de monter la porte en acier rouillé. Ils portaient chacune une longue lance harpon qui devait anciennement servir à pêcher le poisson, et une matraque au côté. « On ne va jamais pouvoir passer !» se désespéra Elona. « Ne dis pas ça !» « Je m'occupe de les retenir, passez derrière moi, » dit Lias en raffermissant sa prise sur son bâton. « Je viens avec toi, » décida Yann. Aline, Ariel et Elona essayaient de convaincre le chef de la ville pour nous. « On ne peut pas vous laisser, » le contredit Ariel. « Nous restons avec vous, que vous le voulez ou non. »« Non, Ariel. Si personne ne passe et termine notre mission, tout cela aura servi à rien, » le raisonna Aline. « Viens. » Lias et Yann se jetèrent alors sur les gardes. Ne s'attendant pas à cette réaction, ceux-ci ne surent pas trop quoi faire et Yann réussit à accéder au levier tandis que Lias s'occupait des gardes. Yann ouvrit la porte pour faire face aux soldats quand il reçut un puissant coup sur la tête et perdit connaissance. Chapitre 5. Un dénouement inattendu. Quand il se réveilla, un horrible mal de crâne l'assaillit. Il se trouvait dans le noir et sa cheville était attachée par une chaîne. C'est alors qu'il remarqua une présence non loin de lui. « Lias, c'est toi ?»« Yann, tu es réveillé ?»« Enfin, j'ai bien cru que tu étais mal en point quand tu as reçu sa matraque sur la tête. Tu es resté inconscient un bon bout de temps. Les autres sont passés, je crois bien, mais j'espère qu'ils ont réussi leur mission. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes jusqu'à ce que leur geôlier viennent leur apporter de la nourriture. Ils mangèrent en silence puis patientèrent encore quand soudain, la porte de leur cellule s'ouvrit brusquement et une éclatante lumière inonda la pièce et les aveugla pendant quelques instants. « Yann, Lias, vous êtes sains et saufs ?»« Ariel, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Lias. « Vous êtes libérés et le chef de la ville a accepté d'arrêter ses projets de défrichage, » leur expliqua-t-elle. « Attends, déjà sortons d'ici et tu nous expliqueras calmement tout ça dehors, » la coupa Yann. C'est ainsi qu'Yann et Lias purent sortir de la prison et rentrer au village, accompagnés de quelques villageois, arrivés peu avant leur libération, tandis que leurs amis leur relatèrent ce qu'ils avaient raté. C'est comme ça que le chef de la ville, impressionné par notre courage et notre détermination, a décidé d'abandonner son idée de débroussaillage. En réalité, il avait décidé de faire ça pour développer davantage le commerce entre les bourgades de la savane, en coupant du bois pour augmenter le nombre d'embarcations de pêche, et en défrichant pour agrandir la surface de terre cultivable, sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir sur les autres villages ou être conséquent. Quand les autres villageois sont finalement arrivés en suivant nos traces, ils ont décidé d'un accord avec lui, de point, réduire le débroussaillage au strict nécessaire et limiter les dégâts et l'empreinte de ses travaux sur la nature. Ils ont même décidé de replanter des arbres aux endroits où ils avaient déboisé, raconta Ariel. Espérons que nos parents ne soient pas trop en colère contre nous à notre arrivée, rigola Aline. Fin.
Merci Maëlle. Alors moi je m'appelle Élise et je vais vous lire ma nouvelle intitulée « Sauver la brousse ». Il faisait nuit. Les troncs des arbres dont elle connaissait chaque détail se perdaient dans l'ombre. Les yeux écarquillés, elle tenta de saisir du regard les derniers mouvements dans l'ombre indistincte de la canopée, puis retomba sur son lit, découragée. Comme tous les soirs depuis 4 ans, elle alluma sa lampe de chevet, saisit un des journaux sur l'écologie et se mit à lire, à apprendre. Lorsqu'elle eut écumé toute la pile, elle avait pris connaissance d'une dizaine de mauvaises nouvelles politiques, une explosion du taux de feux de forêt et la construction d'une nouvelle zone industrielle. Légèrement déprimée, elle s'empara de son ordinateur et alla sur son blog. Elle s'apprêtait à rédiger un nouveau texte quand les journalistes entrèrent. Elle se redressa, surprise, prête à leur annoncer qu'ils s'étaient trompés de chambre, quand un des journalistes demanda « Mademoiselle Nadaré, c'est ça ? Honorée de vous rencontrer en personne, nous aimerions vous poser quelques questions. » Quand elle repense à cet entretien, ses souvenirs se brouillent. Elle se rappelle seulement de quelques flashs. Vos écrits ont fait beaucoup de bruit, phénomène mondial. Les journalistes avaient également cité une phrase qu'elle avait mise dans un de ses blogs. Le vivant est un miracle dans chacun de ses aspects, puisse-t-il être aussi simple qu'une abeille qui butine une fleur. Voilà, c'est comme ça que ça avait commencé. Sa voix était entendue. Partout dans le monde, les gens se réunissaient, formant d'immenses foules conséquentes que le gouvernement ne pouvait ignorer. Quant à elle, dans sa chambre, elle redoublait de travail. Elle recherchait, écrivait, signait. Elle avait reçu plusieurs autres visites de journalistes depuis la première. En parallèle, son traitement progressait. Elle pourrait bientôt sortir. Son état s'améliorait de jour en jour. Mais à 2 mois de sa sortie, elle apprit la nouvelle d'une immense manifestation en Afrique pour lutter contre le débroussaillage en masse. Ce fut un déclic. Elle savait qu'elle devait y aller. Ce sujet lui tenait particulièrement à cœur car elle avait passé ses premières années dans la brousse et toute sa famille, dont sa mère qui lui avait tout transmis, était originaire de là-bas. Tous les biomes étaient précieux pour elle, mais son cœur était frais de brousse. La manifestation était dans 3 semaines. Pendant tout ce temps, les médecins et les infirmières firent tout pour essayer de la dissuader d'y aller. « Mais il y en aura d'autres, des manifestations. Vous n'êtes pas encore assez forte. Mademoiselle, vous risquez la mort. » Mais elle était tellement déterminée qu'ils finirent par renoncer. Une semaine avant la manifestation, elle s'embarqua dans un biodirigeable et se posa en Afrique le jour J. La manifestation était un événement mondial et plusieurs centaines de milliers de personnes s'étaient réunies pour défendre la brousse. Ils l'accueillirent comme une héroïne, elle devint leur porte-parole. Ils réussirent, ensemble, à sauver des milliers d'hectares de brousse. Leur voix résonnait dans le monde entier. Cependant, sa maladie commençait à la rattraper et elle avait de plus en plus de mal à respirer. Elle s'effondra alors que la manifestation était sur le point de se terminer. Les médecins ne parvinrent pas à la réanimer. Mais sa mort n'avait pas servi à rien. La manifestation et l'annonce de son décès provoquèrent une véritable révolution. Les Nations Unies organisèrent une réunion d'urgence où les dirigeants de centaines de pays prirent des mesures radicales pour préserver la faune et la flore de la planète et faire face au réchauffement climatique. Désormais, croire à un avenir était possible. Fin.
C'était la première émission présentée par les éco-délégués du Collège Marcel Aymard. Nous avons lu les nouvelles que nous avions écrites pour le concours de 10 mois 10 mots sur le thème de la planète. Elles sont diffusées sur Radio Larzac dans le cadre de Novembre Vert. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiolarzac.org.